Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France, bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écoutez, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée.
Aujourd'hui, je reçois Alexandre Florentin, élu à la ville de Paris, directeur de la Carbon 4 Academy et co-auteur de la fiction Paris 50 degrés. C'est sur ce dernier sujet que nous avons notamment échangé. Basé sur de nombreux entretiens, Alexandre a développé une fiction de Paris à 50 degrés en 2026. Et autant vous dire qu'après les nombreuses canicules de l'été, sa fiction devient de plus en plus proche de la réalité. Mais cela est-il vraiment probable ? Quelles sont les conséquences sur les hôpitaux, sur les réseaux électriques ? Quelles sont les solutions ? Mais également, comment s'adapter ? Un échange passionnant que je vous propose de découvrir dès maintenant. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Florentin. Comment tu vas, Alexandre ?
Très bien, je suis en vacances, là, je vais très bien.
Donc tout va bien, tu vois, tu prends tes vacances pour faire un épisode de Demain est durable. C'est dire la chance que j'ai aujourd'hui. En tout cas, merci pour ton temps aujourd'hui. On va parler de plein de sujets, notamment de Paris 2050, une fiction que tu sors très bientôt, de ton poste au sein de Carbon 4, de ton poste de conseiller de Paris pour justement tous ces sujets liés à la canicule, à l'environnement, etc. Mais on va en discuter bien sûr pendant tout l'épisode, en commençant d'abord par une présentation. Et donc, qui es-tu, Alexandre ?
Alors, je peux me présenter assez classiquement par ce que je fais. J'ai une double activité. La première, c'est que je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Carbon 4 et dont je suis directeur du centre de formation que j'ai créé il y a 2 ans, qui s'appelle la Carbon 4 Academy, et dont l'objectif, en fait, c'est d'armer intellectuellement et en termes d'outils des gens qui travailleraient plutôt en entreprise et qui voudraient à la fois lutter contre le changement climatique et se préparer au climat qui change déjà. Donc ça, c'est ma première activité, et j'étais dans ces milieux-là. J'ai fait toute ma carrière, en fait, dans des cabinets de conseil spécialisés dans ces sujets, à travailler plutôt pour des grands groupes, un peu pour des collectivités territoriales, en France et au Brésil notamment, où j'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Et par ailleurs, depuis 2 ans, je suis élu à la ville de Paris à 2 niveaux, parce que Paris, comme Lyon et Marseille, a à la fois des mairies d'arrondissement et une mairie centrale. Et je suis conseiller municipal dans la mairie du 13e arrondissement, en charge des questions liées au climat. Et au niveau central, je suis ce qu'on appelle un conseiller de Paris, qui est une sorte de... vous imaginez une assemblée, un peu comme l'Assemblée nationale, en plus petit. On est 163 et on délibère de toute la politique parisienne. Et ce serait un peu comme si moi j'étais député là-dedans, avec par ailleurs des gens qui seraient dans l'exécutif et qui, donc on appelle des adjoints, et qui seraient statutairement, enfin si tu veux, l'équivalent de ministre. Mais voilà, moi je suis côté pouvoir législatif à la mairie centrale. Voilà, c'est les deux choses qui m'occupent beaucoup. Et par ailleurs, j'adore la musique. Je vis par et pour la musique, notamment tout ce qui est jazz, salsa, funk, samba. J'ai fait beaucoup de musique dans ma vie, j'en fais toujours et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup.
Ok, très bien. Sur le, comment est-ce que tu passes de le sujet consultant, consulting, etc., que tu continues bien entendu, hein, à l'envie d'aller faire de la politique en tant que telle?
D'abord, l'envie d'aller faire de la politique, elle m'est venue de mon activité de conseil chez Carbone 4, qui a été cofondée par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, qui sont des gens... Donc ensuite, ils ont été rejoints par un troisième associé qui s'appelle Laurent Morel. Et en fait, tous les trois n'ont qu'un demi-pied chez Carbone 4. Ils font beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses par ailleurs, qu'on pourrait qualifier de politique au sens de participer aux discussions de la vie de la cité. Donc moi, ça fait 7 ans que je suis chez Carbone 4, et donc j'ai été un peu imprégné de cette culture-là, du fait que notre cabinet de conseil, il a vocation en fait à avoir à être une voix dans le débat public. Et moi, un constat que je faisais dans mon activité de conseil, c'était que je rencontrais beaucoup de gens dans le secteur privé qui étaient pleins de bonne volonté, qui avaient envie de changer les choses, qui essayaient de se faire bouger leur gros paquebot, mais que en fait, si les règles du jeu ne changent pas, ils y arriveront pas, quoi. Ça, les règles du jeu, c'est en politique que ça se change. Et donc ça me trottait un petit peu dans la tête, mais j'avais pas osé, en fait. Et puis en fait, j'avais jamais eu l'opportunité, j'avais pas rencontré les bonnes personnes pour, jusqu'à ce que ça se fasse et que je me dise ok, allons-y. Donc pour moi, c'était assez naturel, si tu veux, en termes d'envie. Ce qui n'a pas du tout été naturel, c'est en termes de savoir-faire et de savoir-être, où là, c'était un saut dans l'inconnu et clairement, j'étais pas du tout préparé.
Concrètement, qu'est-ce qu'on te demande au quotidien quand dans ce poste-là, avant de passer sur les sujets plus environnementaux, sur qu'est-ce qu'on te demande au quotidien pour peut-être projeter aussi les auditeurs auditrices qui souhaiteraient aussi peut-être aller dans ce monde-là, aider la cité, comme tu disais?
Ça me demande de changer mon rapport au conflit, parce que avant je voyais plutôt ça comme quelque chose à éviter, et donc notamment en travaillant beaucoup sur les relations interpersonnelles pour voir où est-ce qu'il y a pu avoir des malentendus, comment arrondir les angles, etc. Tandis que là, en fait, il y a une forme de théâtralisation du conflit. Et donc ça me demande d'apprendre à vivre avec, d'accepter que c'est aussi comme ça, c'est pas la seule voie, mais c'est aussi comme ça que ça se passe. Alors, on aura peut-être l'occasion de parler d'une initiative que j'ai lancée qui, elle, est pas tournée sur la culture de la conflictualité, mais plutôt un mode de création du consensus. Mais mon challenge, il est clairement par rapport au conflit. Et parfois, ma difficulté, c'est d'arriver à faire la différence entre un conflit qui est sain, parce que c'est un conflit d'idées, pour lequel ça vaut la peine de se battre, mais avec des modes opératoires qui resteraient sains. Et c'est là où il peut y avoir un mélange des genres qui est très fatigant. Notamment quand il y a les réseaux sociaux qui s'en mêlent.
Ouais, c'est sûr.
Et ça change complètement la donne, je trouve. Et moi, j'avais pas l'habitude de Twitter, et j'avais pas l'habitude d'être exposé médiatiquement, et ça a quand même énormément changé ma vie. Et encore, tu vois, je suis pas si exposé que ça, et je suis un mec. C'est une chose de savoir que c'est un espace violent, c'en est une autre de le vivre de l'intérieur. Et donc ça, en fait, pour bien vivre tout ça, en fait, ça nécessite que je sois encore plus ancré dans ma cause et dans le pourquoi je fais tout ça. Mon métier, par ailleurs, me plaît énormément. J'ai des collègues qui sont formidables, mais je sais que le combat politique, il doit être vécu par certaines personnes. Et je me dis, j'y vais beaucoup par sens du devoir, ça nécessite de trouver d'autres équilibres dans ma vie, de pas me perdre dans des trucs très égotiques qui peuvent t'appeler en politique, où c'est le grand classique en fait, c'est soit le bâton soit la carotte. Et pour sortir de cette dichotomie-là, il faut être très très ancré dans pourquoi on est là. Et sur le fait de rien devoir à personne, et que à un moment c'est un suffrage universel qui a parlé, t'es élu, t'as la même légitimité que n'importe quel autre, même si l'autre ça fait 20 ans qu'il fait de la politique, qu'il en maîtrise les codes, qu'il maîtrise les codes des réseaux sociaux, les codes journalistiques. En fait, moi je viens avec ce que je pourrais qualifier par rapport à la moyenne, je viens avec une très grande expertise sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au climat qui change déjà. Et donc en fait je suis légitime. Et c'est ça la beauté de la démocratie, c'est que n'importe qui est tout aussi légitime que moi ou que d'autres c'est une question de d'implication et d'éthique, je trouve. Donc ça me chamboule beaucoup hein, cette expérience politique, mais c'est la cause qui me maintient, qui me donne beaucoup d'énergie. Et puis en 2 ans, il y a énormément de choses qui se sont accélérées et pas dans le bon sens.
Ah, c'est sûr qu'en plus, je crois que tu as démarré en début 2020, c'est ça ? Et si je me trompe pas,
mi-2020.
Donc, oui, c'est. Ouais. Donc du coup, c'est une période qui est pas facile d'un point de vue épidémique et d'un point de vue bien entendu environnemental. Sur quoi on va discuter dès maintenant pour parler un peu plus de tes valeurs, de ton pourquoi, comme tu le disais juste avant. L'objectif là de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vraiment comprendre via la fiction que tu as pu écrire, Paris 50 degrés. Qu'on puisse du coup parler de l'adaptation des villes au changement climatique, de l'impact du changement climatique sur les villes. Déjà sur cette fiction-là, est-ce que tu peux nous la présenter et pourquoi tu as décidé d'écrire une fiction sur cette thématique ?
Ouais. Alors déjà, j'ai remarqué dans ton introduction que tu as appelé ça Paris 2050.
Ouais, c'est vrai, exactement.
Alors que c'est Paris 50 degrés. Et ouais, non, mais c'est vachement intéressant qu'on en discute un tout petit peu. Parce qu'en fait, t'es clairement pas le premier. Je me suis posé la question, tu vois, à un moment donné, de est-ce qu'on parle de Paris 45 degrés, Paris 48, Paris 52. Bon, alors il y avait l'effet de le nombre rond, mais qui est un nombre qui est très élevé. Et surtout, en fait, ce que je constate, c'est que on a toutes et tous envie de penser que c'est pour 2050.
C'est vrai que c'est pas si proche que ça, alors que si, malheureusement.
Ouais. Voilà. Et donc, je voulais dire ça en introduction parce que tu vas voir, ça va faire écho avec d'autres choses. Donc, pourquoi une fiction? Déjà, parce que moi, c'est un mode qui me parle. J'adore Isaac Asimov. Il y avait quelqu'un qui a un compte Instagram qui s'appelle Dire le Bise, qui écrivait des fictions extrêmement courtes que je trouvais vachement intéressantes. T'as aussi la série, je crois que ça s'appelle L'Effondrement. Je suis un consommateur de séries, de livres, de fictions, et en fait toutes ces sources d'inspiration, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, et pas tout seul, hein, j'en discutais avec des amis, sur est-ce qu'on écrit des fictions positives dans lesquelles on se serait adapté. L'idée, elle était revenue pendant la campagne des municipales sur est-ce qu'on pourrait, au lieu d'écrire juste un programme à la con, est-ce qu'on pourrait écrire des fictions sur un Paris à 2030 pour montrer ce qu'on a réussi à mettre en place, est-ce que ça a changé. J'avais commencé à lancer un collectif qui s'appelait Paris Cocotier, justement pour raconter des tranches de vie dans un Paris qui se serait adapté. Donc c'est quelque chose qui revenait à mon esprit. Et sachant que voilà, c'est pas, il y a rien d'original en fait dans le fait d'écrire des fictions politiques plus ou moins réalistes, plus ou moins positives. Mais moi, c'est un mode qui me parlait à moi d'abord. Ensuite, j'ai dans le cadre de mes fonctions d'élu dans le 13e arrondissement et avec le soutien du maire. J'ai mené avec une petite équipe une quarantaine d'entretiens d'acteurs du territoire pour savoir comment ils ont vécu les canicules précédentes, et on avait pris comme excuse la canicule de 2019, et que je t'expliquerai pourquoi, et comment ils se préparent aux canicules suivantes. Donc pourquoi 2019? Parce que contrairement aux précédentes, elle était plus courte mais plus intense en température. Donc moi, je voulais savoir si il s'était passé des choses qui s'étaient pas passées sur les canicules de plus basse intensité, mais de longueur plus grande, de durée plus longue. On a interviewé des commerçants, une école, un EHPAD, un hôpital, les pompiers, beaucoup de services de la ville, dont les services funéraires, par exemple, qui avaient été beaucoup chamboulés en 2003. On a interviewé des villes canadienne, dont Montréal, parce que donc ce travail-là, il s'est fait à partir de l'automne 2020, et donc il y avait eu le dôme de chaleur au Canada. On a interviewé des gestionnaires de réseau, donc c'est pas spécifique au 13e arrondissement, mais dont le 13e arrondissement dépend, donc les transports, l'électricité, l'eau, les télécommunications, etc., etc. Et donc, on en a tiré un joli rapport que j'ai énormément de mal à finir, parce que c'est très chiant, je trouve, comme mode d'écriture. On en a des messages clés que je pourrais te, dont je pourrais te parler, mais surtout, en fait, à partir de là, je me suis dit, mais ça, c'est une matière pour une fiction qui est incroyable. Et une fiction au sens de quelque chose de très réaliste, beaucoup plus comme, c'est beaucoup plus pensé comme c'est pas du tout une fiction heureuse, c'est vraiment en fait c'est un scénario de gestion de crise, c'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on a appris pendant ces interviews et ce que je peux lire dans la presse, que je peux apprendre par mon métier, par des interviews d'experts qu'on a fait après aussi, quand on voulait s'assurer que ce qu'on racontait dans la fiction était réaliste. Et on s'est dit, en fait, on va se mettre en 2026, en juin 2026. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit en février 2021. En février de cette année, on s'est dit, voilà, on va positionner la canicule en juin 2026. Elle va durer 3-4 semaines et elle va avoir un pic à 50 degrés. Donc tu vois, ça fait le lien avec ce que je disais sur 2050. En fait, on considère qu'il va se passer quelque chose qui va surprendre tout le monde, et ce qui explique qu'on n'est pas du tout prêt. Et l'idée, c'est de dire, bon, en vrai, c'est pas très probable d'avoir une canicule de ce profil-là en 2026. Mais au moment où, parce que donc on l'a publié au jour le jour, c'est-à-dire que là on a fait une pause parce que c'était trop fatigant d'écrire tous les jours, mais on a commencé à écrire le, je crois que c'était le 30 ou le 31 mai, et en fait ça correspondait à un jour de mai. En 2026. Et puis, donc il y a tout un mois avant où tu as genre les scientifiques qui disent attention, il va se passer quelque chose. Et ça commence par aussi une carte de Météo France d'alerte qui est publiée, puis qui est dépubliée, et qui est republiée plus tard avec un message beaucoup plus calme. Et donc on met de la politique aussi là-dedans, et on imagine comment le gouvernement réagirait face à quelque chose auquel clairement il s'est pas préparé, il nous a pas préparé. C'est pour ça que c'est aussi une fiction politique. Et on rédige ça au fur et à mesure. Et en fait, quelques jours après le début de la publication, t'as bon pote qui me contacte et qui me dit « Mais tu sais que d'ici mi-juin, il va y avoir une canicule précoce là dans la réalité. » Et je lui dis « Bah non, je savais pas parce que moi, je suis pas très connecté comme il peut l'être au milieu des météorologues et des climatologues. » Au point d'avoir des informations en avance de phase par rapport à ce qui peut sortir dans le domaine public. Et en fait, il s'est passé ce truc très bizarre qui est que le début de notre histoire correspondait au début de la canicule précoce de juin. Et en fait, on se faisait rattraper par la réalité parce que en fait, il y avait des trucs qu'on avait imaginés dans les grandes lignes qui étaient en train de se passer. Donc, notamment, on accentuait les pénuries alimentaires, il faisait plus chaud. On a imaginé que le Met Office, qui est donc l'équivalent de Météo France, il publie un bulletin d'alerte avec des températures inconnues encore en Angleterre et qui il recommandait à leurs concitoyens de pas aller en France.
Ouais, c'était intéressant cette partie-là dans ce que tu m'as envoyé.
Et tu vois. Et en fait, c'est dans la même ligne que du fait d'imaginer des incendies. Alors, nous, on l'a pas fait, mais moi, je t'avoue que je pensais pas qu'il y ait des incendies à cause de la sécheresse en Angleterre dans la décennie 2020-2030. Ce qui s'est passé là, fin juin, début juillet. Donc voilà, tu vois, on a... Ça, c'est des trucs où on était proche de la réalité. Il y en a où on était carrément sur ce qui s'est passé. Ça n'a pas d'intérêt qu'on en parle là. Mais le message, c'est en fait, on s'est fait rattraper par la réalité. Et, ça, plus la fatigue personnelle pendant la canicule, le fait d'être très exposé pour des raisons que je pourrais expliquer après. Pendant très exposé médiatiquement pendant la canicule, en fait, à un moment, j'ai dit à mes co-auteurs qui sont Florian Zito et Agathe Fredfond, j'aurais dit en fait, moi, j'arrive plus à tenir le rythme journalier. J'ai besoin de prendre du recul et j'ai besoin de, pour que ça reste une fiction, en fait, j'ai besoin de pas l'écrire pendant qu'il se passe des trucs comme ça. Et c'est drôle parce que donc j'écris beaucoup avec Florian, qui par ailleurs est un collègue chez Carbone 4. Mais on fait ça sur c'est une implication perso. Y a des fois on se demandait mais est-ce qu'on force le trait ou est-ce qu'on est trop gentil. Tu vois, à un moment on dit en fait une canicule qui durait 3-4 semaines avec un pic à 50 degrés, est-ce que les gens ils vont pas aller faire du camping dans le bois de Vincennes et le bois de Boulogne pour aller trouver du frais? Et on ne sait pas si on est trop bizarre. Tu vois, est-ce que c'est réaliste ou bien est-ce qu'on va trop loin? Et malheureusement, le fait est que plus la réalité avance et plus je me dis en fait on a été trop timide.
Bah justement pour aller sur tous ces sujets-là, si tu veux, en commençant déjà par la base, bien sûr, on va aller dans tous les détails de comprendre les conséquences sur la ville. Comment est-ce qu'on pourrait s'adapter au mieux? Comment la fiction pourrait devenir une... Comment est-ce qu'on pourrait, disons, améliorer cette fiction grâce à des actions au quotidien ou autres des politiques ou des institutions? Déjà, juste pour revenir sur la base, pourquoi la probabilité d'une canicule de ce type-là, à ces degrés élevés comme ceci à Paris, 50 degrés, non pas 2050, à quel point c'est probable cette partie-là? Pourquoi est-ce qu'il fait plus chaud en ville? Pourquoi est-ce que c'est plus probable à Paris plutôt que en région, en campagne, etc.? Pourquoi est-ce que c'est plus probable?
Alors déjà, il faut toujours se rappeler que les météorologues et climatologues, toutes les températures que tu vois dans un bulletin météo, sur des cartes de prévision, etc., c'est toujours des températures à l'ombre. D'accord? C'est toujours des températures à l'ombre dans des conditions qui ont été un petit peu normées. C'est-à-dire que on évite au maximum, par exemple, de mettre des stations météorologiques sur un toit en plein cagnard. Même si tu mettais juste un toit pour un petit toit pour couvrir, on essaye de reproduire des situations comparables. Donc une station qui est connue des Parisiens parce qu'elle est, c'est celle qui a enregistré le record historique de 42,9 si je me trompe pas en 2019, c'est celle du parc de Montsouris. Donc déjà quand tu sais ça, en fait, il faut bien se dire que il y a des endroits à Paris qui ont déjà connu du 50 degrés. Voire beaucoup plus. Si tu mets une surface goudronnée en plein soleil qui ne reçoit jamais d'ombre, elle monte facile à 60. Les rails de tram ou de RER qui connaîtraient pas l'ombre connaissent des températures supérieures à 50. Donc c'est pour ça il faut bien faire la distinction entre voilà les températures de météorologue, climatologue et puis en fait ce que nous on va ressentir et on a déjà dépassé du 50 degrés. Ça c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième point qui est un facteur aggravant qui est que la ville est très dense, est très bétonisée, est très goudronnée, et que tout ça, c'est des matières qui emmagasinent la chaleur et qui la restituent la nuit, et qui fait que la température, elle baisse pas la nuit. Quand t'es à la campagne et qu'on dit il fait 40 degrés, quand on dit à Paris il va faire 40 degrés, la journée il va faire la même température, mais en fait le soir à la campagne, tu peux souffler. À Paris, c'est plus compliqué. Et c'est cet effet-là qu'il va falloir combattre en priorité parce que on maîtrise pas vraiment la température qu'il va faire à Paris par ailleurs, on va dire au sens où la température qui nous est imposée par le climat. Ça, c'est un point que qu'il faut bien avoir dans le crâne, c'est que on ne maîtrise pas le climat qu'il va faire à Paris. Le changement climatique, c'est un phénomène international. On pourrait avoir une ville, on pourrait avoir une France très bas carbone. Ben, va falloir quand même se préparer à un climat qui change. On va dire, c'est une question de prudence. On va dire au cas où les autres régions du monde et les autres pays fassent pas le boulot. Et ça, je trouve que c'est trop absent du discours politique. Et par ailleurs, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, moi je pense qu'il faut arrêter de dire « Ah, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre », c'est un co-bénéfice d'autre chose. C'est-à-dire qu'il faut simplifier nos vies, consommer moins, parce que en fait on est manipulé à consommer toujours plus, ça nous rend pas heureux, ça génère beaucoup de pollution locale, donc juste avoir des vies plus simples, plus cool, ça nous rendrait plus heureux. Et par ailleurs, ça nous rendrait moins sujets, ça nous rendrait moins dépendants à toutes les turpitudes internationales comme on l'a bien senti pendant le Covid. Là, on commence à le sentir avec le début de la crise énergétique à l'été 2022, pardon. Et il faut qu'on se prépare à tout ça en même temps qu'on se prépare à un climat qui change.
Sur les conséquences d'un dôme de chaleur, d'une canicule à ce niveau-là, donc comme tu disais, donc 50 degrés, quand tu imagines Paris 50 degrés, donc c'est Paris 50 degrés à l'ombre. J'imagine que c'est comme ça que tu l'as imaginé.
Oui.
Imaginé à 3. Quand on atteint ces niveaux-là, quelles conséquences on a? Je vais faire du coup plusieurs sous-parties, disons, parce que tu en parlais aussi juste avant par rapport aux interviews que tu as pu faire. D'abord sur le système de santé. Quel impact tu as pu voir du coup sur 2019 et quel impact on pourrait avoir si on atteint des proportions aussi élevées?
Avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur ta question précédente parce que je pense que j'ai pas assez bien répondu. Parce que tu disais, tu posais une question qui est très légitime, qui est, mais c'est quoi la probabilité qu'il y ait un dôme de chaleur à 50 degrés en 2050? Je suis pas capable de te mettre des chiffres, mais en fait, les climatologues, ils nous disent, en fait, maintenant, c'est probable. C'est-à-dire que c'est plus un truc improbable. Mais de la même manière qu'un dôme de chaleur, au Canada à 50 degrés, c'était considéré par les modèles comme improbable. Au sens de, ça a une probabilité de 1 sur 10 000 d'arriver une fois tous les 10 000 ans. Donc autant te dire, c'est négligeable. Je connais pas les chiffres pour le genre de phénomène qu'on décrit, mais moi j'ai un raisonnement qui je m'extirpe des probabilités des climatologues, parce que j'ai un raisonnement politique et de gestion des crises. C'est de dire, en fait, il faut qu'on se prépare à ça, parce que si c'est pas 2030, si c'est pas 2050, c'est peut-être 2060, c'est peut-être 2070. Et or, les temporalités dont on parle en termes d'adaptation, elles sont énormes parce qu'il s'agit de transformer la vie. Donc, moi, je préfère me préparer au pire, sachant que ce pire-là, il n'est pas improbable. Et c'est un changement complet de paradigme sur tous les pans de notre vie. Et malheureusement, il y a beaucoup d'exemples grâce aux vagues de chaleur et canicules qu'il y a eu là dans les derniers mois, avec de la sécheresse. En fait, c'est là qu'il dit, ah ouais, d'accord. Par exemple, on a commencé à planter des arbres, mais en fait, si on peut pas les arroser, y compris l'été, ils vont mourir. Mais est-ce que je peux les arroser alors que c'est en pleine sécheresse? Et donc, tu vois, c'est des questions, en fait, comme disait Naomi Klein, it changes everything, ça change tout. Je donne des exemples sur le système de santé. Donc le système de santé, il y a deux grands trucs qui vont se passer. C'est que un, il va y avoir plus de gens qui vont vouloir l'utiliser. Et deux, son mode de fonctionnement habituel va être perturbé. Sur le premier plan, c'est assez classique, hein, on l'a vécu en 2003. En fait, tu as les personnes fragiles. Alors pour l'instant, c'est surtout les personnes âgées les SDF. Mais demain, ce sera les enfants. Et après, on va, tu vois, aller vers des tranches d'adultes. Ça va être, on va remonter les tranches d'âge des enfants et on va descendre les tranches d'âge d'adultes. Puis ça va être des gens qui sont pas en, même qui sont jeunes mais qui sont pas en très bonne santé parce qu'ils ont de la comorbidité ou des choses comme ça. Les SDF, il y a déjà plus de SDF qui meurent l'été que l'hiver. Moi, ça m'avait étonné d'apprendre ça. Parce qu'en fait, c'est pas dans notre imaginaire. Et donc les systèmes, ils sont pas organisés pour. Mais en fait, l'été, les SDF, il y a parfois des problèmes d'alcoolémie, il y a des problèmes d'hydratation, et puis et ils décèdent. Qu'est-ce que font les pompiers dans ces moments-là? En fait, ils servent de passe-plat. Ils sont appelés quand il y a des situations de détresse. Et ça, les situations de détresse, on s'est déjà amélioré parce que grâce à 2003, on a mis en place des systèmes où les personnes fragiles, elles sont sur des listes et elles sont appelées par les services publics pour voir si elles vont bien, pour leur rappeler qu'il faut qu'elles boivent, des fois pour les aider à faire des courses, etc. Donc il y a un système d'entraide par la fonction publique qui fonctionne et qui fait que après 2003, quand on a eu d'autres vagues de chaleur, on a eu moins de surmortalité. Mais à un moment, ces personnes-là, elles sont quand même en détresse. Il faut les amener à l'hôpital. Et ça, les pompiers, ils le voient, c'est-à-dire qu'ils ont leur nombre d'interventions qui augmente. Mais ce que me disait très bien un lieutenant-colonel, c'est que ça part du principe que l'hôpital va tenir le coup. Donc, t'as une surcharge de l'hôpital, sachant que c'est pas juste une question de chaleur, ça peut être aussi lié à la qualité de l'air. Tu vois, t'as des trucs croisés comme ça qui arrivent. Donc on pourrait se dire aussi, à l'heure actuelle, le système sur la qualité de l'air, tu vois, quand tu passes en circulation alternée, c'est une fois que les pics de qualité, les seuils de qualité de l'air, ils sont dépassés. C'est jamais en préventif, ce qui paraît absurde. C'est quand il y a le problème que on se met à gérer, alors que en fait on a suffisamment de modélisation suffisamment bonne pour se dire il faut que ce soit au seuil d'en dessous que on commence à avoir une circulation alternée. Donc tu vois, tout ça, il va y avoir des facteurs combinés qui vont faire que l'hôpital, il va être en surtension. Sachant que l'hôpital est déjà pas en bonne forme pour des questions de sous-investissement, de sous-investissement en tout genre. Je vais simplifier en disant juste ça. Il y a des gens plus compétents que moi pour en parler, mais on en a tous une compréhension et un ressenti maintenant, je pense. Et donc, il va y avoir cet effet-là. Ensuite, l'hôpital, pour fonctionner, sachant que c'est très centré sur l'hôpital, mais en fait, il faudrait arrêter de penser la santé comme étant uniquement liée à l'hôpital. Si on parle de solutions, on pourrait explorer ce champ-là. Mais l'hôpital, pour fonctionner, il a besoin de clim. En général, c'est pas des bâtiments qui sont avec une bonne performance thermique l'hiver comme l'été. Donc, ils mettent la clim pour compenser tout ça. Et dans l'entretien, donc ça, c'est du réel. Hein. Tout ce que je raconte là, en fait, c'est lié sur les entretiens, c'est pas la fiction. Et c'est des choses qui se passent déjà. Ce qu'on fait dans la fiction, c'est qu'en fait, on grossit le trait et on dépasse certains seuils qui ont été identifiés pendant les entretiens. Seuils qui, une fois dépassés, créent des effets dominos. Donc, les clims en France, à peu près toutes, en fait, elles sont capées, elles ont un seuil de fonctionnement qui est à 42 degrés. C'est-à-dire que quand tu as un système technique, en général, tu as des seuils de fonctionnement dans lesquels, bon, ça fonctionne pas toujours si bien que ça, mais ça fonctionne encore quand c'est dans ce seuil-là. Et puis, par contre, il y a un seuil limite au-dessus duquel le système il s'arrête. Et ce que j'ai appris dans un entretien, c'est que dans l'hôpital en question, mais en fait, ma compréhension, c'est que c'est le cas pour tous les systèmes de clim, c'est qu'ils sont pas censés fonctionner au-dessus de 42-43 degrés. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des clims, il y a des frigoristes dans le sud de la France qui parfois arrosent des clims.
Okay.
Donc tu vois le problème en sécheresse. Au moment où ça c'était je pense si je devais retenir un moment de tout ce travail pendant des mois d'entretien, un moment où là je me suis dit waouh, ok, en fait c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais, c'est quand dans cet entretien-là, on apprend qu'il y a ce seuil et je commence à creuser. Donc avec le directeur de l'hôpital et je pense que c'était le directeur, je me souviens plus bien, mais c'était peut-être le directeur des services techniques généraux. Et on leur dit, je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe si le système il s'arrête ? Il dit, bah si le système s'arrête, il y a plus de clim dans l'hôpital. Ok, mais s'il y a plus de clim, qu'est-ce qui se passe ? Bon bah c'est de l'inconfort qu'on pourrait pousser jusqu'à de la surmortalité parce qu'il y a des gens fragiles qui auraient beaucoup trop chaud, qui seraient hospitalisés. Mais surtout, il y a le directeur qui dit oui, et puis on est censé arrêter le bloc opératoire. Parce que, et alors ça je l'ai compris après, en fait, le système de clim, sans doute qu'il est couplé au système de ventilation, et si tu respectes pas certains... seuil de certaines plages de température au bloc opératoire, en fait, t'es hors protocole et donc tu dois arrêter d'opérer. Il me dit ça, comme s'il n'y avait pas de problème. Je fais, bah oui, mais en fait, si vous n'êtes pas le seul hôpital et que c'est tous les hôpitaux qui ont ce problème-là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends bien qu'on peut déprogrammer des opérations comme on l'a fait pendant le Covid, mais il va y avoir toujours des opérations d'urgence. Et il me dit, oui, c'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce que dans la pièce, je sens qu'il y a un ange qui passe où en fait, on se dit « Waouh, la vache, en fait, c'est un gros problème. » Et il me dit « Bah ouais, on n'y avait jamais réfléchi, mais ça nous intéresse de travailler avec la mairie pour se préparer à ce genre d'éventualité parce qu'en fait, ils remettaient pas du tout en cause le changement climatique et ils savaient que ça allait arriver et en fait, ils ont compris qu'ils étaient pas du tout prêts. » Et ça, c'est quelque chose qu'on tire le fil dans la fiction. On tire le fil dans la fiction où à un moment on imagine une directrice d'hôpital qui dit bah en fait on est passé en mode hôpital de guerre, on est hors protocole pour plein de choses. On a mis des lits de camp à l'extérieur de l'hôpital parce que on a la chance dans cet hôpital là, qui est un hôpital imaginaire, mais c'est le cas de pas mal d'hôpitaux, ils ont des cours intérieurs un peu arborés. Mais sinon, ouais, ils doivent fonctionner hors protocole. dans notre fiction, parce qu'on n'est pas prêt.
Sur
et ça, moi j'ai un peu peur qu'on soit pas si proche de la réalité, qu'on soit pas si proche de, qu'on soit pas si loin de ce qui pourra arriver dans un ou deux étés.
Non, c'est vrai que si tu si tu pousses à l'extrême tout ce qu'on a pu voir pendant cet été, qu'on peut voir dans d'autres continents qui pourraient aussi nous ressembler. Bon, il y a d'autres, je suis pas météorologue du tout, mais on peut imaginer en effet que ce type de situation puisse arriver, d'autant plus 42, 43 degrés, c'est pas si inimaginable, quoi. C'est pas 50 degrés, c'est ça reste des températures qui vont, à mon avis, être atteintes assez récemment. Je crois que c'est 22 jours de canicule d'ici 2050, quelque chose comme ça, à Paris. Donc, c'est des situations en effet qui très probablement vont arriver, et donc en effet de comprendre comment s'adapter, on en parlera juste après.
On en a déjà eu 14 rien que sur la canicule de juillet. 14 jours de canicule. Tu vois, pour se dire, en fait, c'est proche. Ouais, non, et ça c'est la moyenne. À chaque fois, ces chiffres-là, c'est des moyennes. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir des extrêmes. C'est pour ça, tu vois, je reviens à cette histoire de à quel point c'est probable ou c'est pas probable. En fait, je pense vraiment qu'il faut se préparer au pire. C'est sain de se préparer au pire sur ce genre de situation. Parce que, à minima, ça nous prépare au long terme. Voilà. Dans le pire des cas, en fait, on se prépare trop tôt. C'est pas comme si tu voulais te préparer au pire par rapport à, j'en sais rien, une guerre mondiale nucléaire. Tu dirais, bon, ok, il faut creuser des bunkers, un truc comme ça, mais enfin, bon, vraiment, est-ce que la probabilité que ce truc arrive... Bon, tandis qu'avec le changement climatique, la probabilité, plus tu vas loin dans le temps, elle est là, donc... Je pense que c'est sain d'avoir cette préparation. Mais je crois que je t'ai coupé. Tu voulais qu'on parle d'autres systèmes que la santé pour explorer, c'est ça?
Non, mais ouais, pour parler juste pour aller au plus global, parce qu'en effet il y a la santé dans la fiction, il y a également l'éducatif, il y a le transport qui est aussi intéressant dans ce que tu parles, dans ce que tu cites dans la fiction. Mais le global en soi, ce qui va aussi faire fonctionner nos institutions et les différentes sous-parties, c'est le réseau électrique. Dans la fiction, tu parles notamment d'un bug à ce niveau-là, enfin de dysfonctionnement au niveau électrique. Pourquoi ça peut arriver, ce type de situation, en période de canicule?
Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, à Paris, il y a un réseau électrique qui est très très particulier parce qu'il est enterré. Tu vois, je sais pas si tu avais déjà remarqué en te baladant à Paris, mais tu vois pas de câbles électriques. Ils sont enterrés. Et historiquement, on a utilisé une technologie qui, pour faire simple, faut s'imaginer que les câbles électriques, ils sont enterrés à un peu plus d'un mètre, il me semble, dans des sortes de gaines en papier. Et ce qui se passe, c'est que comme tout est, il y a du bitume, etc. En fait, la chaleur, au fur et à mesure que la canicule elle avance dans le temps, elle va s'emmagasiner, elle va descendre dans le sol. Et il y a un moment où, au niveau, à la profondeur du câble, il va faire trop chaud pour le câble et en fait, il peut claquer. Donc ça, c'est un phénomène qui est bien connu par le gestionnaire de réseau électrique, parce que on a régulièrement des problèmes de coupure en canicule à cause de ça. Il y en a à chaque fois. Ça va parce que donc le gestionnaire en réseau s'appelle en question le gestionnaire de réseau en question s'appelle Enedis. Ils ont l'habitude de savoir fonctionner, ils connaissent le problème, ils l'ont mappé, ils savent intervenir. Donc l'autre fois, je voyais, parce que quand tu es à la mairie, tu as des petits bulletins d'alerte dès qu'il y a un problème dans la ville. Donc je voyais, tu avais dans le 14e une coupure de courant, c'était bien lié à ça. Ils sont, je sais plus, genre dans l'heure, ils avaient mis des groupes diesel pour alimenter le millier de foyers qui avaient été coupés. Et puis dans la journée, ils avaient fait les travaux pour faire le truc. Ils ont un plan pour changer ces câbles-là à horizon de la décennie. Et donc c'est moi ce que je questionne, c'est en fait si ça arrive plus tôt, les grosses canicules, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est pas forcément très intuitif, c'est qu'il peut y avoir un décalage entre la canicule et le moment où les pannes électriques elles ont lieu, parce qu'en fait le temps que la température elle pénètre dans le sol, si ça se trouve il fait déjà frais en hauteur. Donc tu peux avoir un ou deux jours de décalage et puis pas faire le lien en fait. Parce que ça, c'est un truc aussi qui est problématique, j'ai trouvé dans les interviews, c'est que les incidents sont pas forcément bien. Alors, je parle tout acteur confondu. Les incidents sont pas forcément bien documentés. C'est-à-dire qu'on manque d'une connaissance établie sur les problèmes qui peuvent être liés aux canicules. Mais dans le cas du gestionnaire de réseau, et ça, ils le connaissent bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un problème de distribution. Parce que le réseau électrique, comment ça fonctionne, il faut qu'il y ait toujours un équilibre entre la production et la consommation. Et en canicule, on peut avoir des problèmes côté production, transport et distribution. J'expliquerai après ce que c'est. Et côté consommation. Il y a tout ça qui se mélange. Donc côté production, qu'est-ce qui se passe? Absolument tous les modes de production qu'on a, sauf la géothermie, à ma connaissance, ont une dépendance soit à l'eau, soit à la température. Par exemple, les panneaux solaires, ils ont une baisse d'efficacité quand il fait trop chaud. Les centrales nucléaires, telles qu'elles sont conçues à l'heure actuelle, elles ont besoin de l'eau des rivières pour se refroidir. Il y a d'autres technologies, mais à l'heure actuelle, il y en a pas mal de centrales en France qui fonctionnent comme ça, et on a des baisses de production là cet été à cause de ça. Les centrales au gaz et au charbon, c'est pareil. À un moment, en fait, il faut les refroidir, et donc soit tu utilises l'air, soit tu utilises l'eau, et on a plutôt, on a quand même pas mal qui ont besoin d'eau. Et donc, quand tu as un couplage forte température sécheresse, en fait, notre réseau électrique, il est pas très résilient. En général, quand il fait très chaud, il y a moins de vent, donc les éoliennes soufflent, enfin, elles fonctionnent moins bien. Donc ça, c'est côté production. Ensuite, il y a côté transport. Donc là, c'est les gros câbles électriques. Et côté distribution, c'est pareil. Les câbles, quand il fait très chaud, ils ont tendance à se détendre. Et quand ils se détendent trop, ça enclenche des mécanismes où, pour éviter en gros qu'ils touchent le sol et que ça crée des coupures non souhaitées, en fait, tu coupes le courant avant. Il y a des mécanismes pour pallier à ça. Et donc ça, c'est important à savoir sur le réseau de transport, mais c'est aussi de transport électrique, mais aussi pour le réseau de transport ferré, parce que en gros, faut penser à la SNCF comme le plus gros consommateur de d'électricité en France, mais c'est aussi le plus gros réseau électrique. Et donc, si ils ont des problèmes sur leur réseau électrique pour les raisons que je viens d'expliquer, t'as un problème sur le réseau de transport. Donc voilà, ça c'était, on a parlé production, transport et distribution. Et il y a un enjeu aussi côté consommation, parce que de plus en plus, on s'équipe en climatiseur, parce que c'est la solution la moins chère avec le retour le plus efficace. On a de la chance que créer du froid, c'est moins énergivore que créer du chaud. Donc, on a de la marge par rapport à toutes nos capacités. Notre réseau électrique, il a été dimensionné pour faire face au pic de froid. Donc, on a du temps avant d'avoir des problèmes vis-à-vis des pics de chaud. Mais si, en fait, tu cumules tous ces problèmes-là, y a un moment la question elle va se poser. Donc c'est pour ça en fait on a une course contre la montre pour faire en sorte que plutôt que de mettre des climatiseurs à tout va, on mette des volets à Paris. Si tu te balades, tu verras que tous les immeubles n'ont pas de volets, alors que c'est le moyen le plus simple de se protéger de la chaleur extérieure. C'est de faire en sorte que la lumière elle rentre pas dans la journée. Donc on pourrait faire ça, mais il faut y aller très vite, parce que autant quand il fait chaud l'hiver, bon, tu mets un pull. Quand il fait trop chaud l'été, à un moment t'as pas le choix, tu mets de la clim. t'as un bébé, t'as pas le choix, tu mets de la clim, tu vas acheter une clim, tu vas pas attendre une autorisation de ton de la copropriété pour mettre et des architectes de France, des bâtiments, des architectes des bâtiments de France pour mettre des volets. Donc c'est et donc tu vas sans doute avoir, t'as déjà une augmentation de la consommation électrique l'été liée à la clim. Un truc que tu pourrais faire très vite, c'est dire en fait il faut qu'on vende uniquement des climatiseurs ultra performants pour que certes les gens puissent s'équiper, mais que au moins ça fasse pas des pics. Et puis il va falloir changer les règles d'urbanisme très très vite. Et ça on n'a pas l'habitude.
Ben du coup sur les solutions, parce que donc on parlait donc des conséquences qu'on pourrait bien entendu pousser encore plus, mais bon ça durerait, on a plein de sous-conséquences, etc. Je partagerai bien entendu le lien de la fiction que vous avez pu faire sur LinkedIn ou d'autres endroits. Donc conséquences sur le système de santé, système éducatif, les transports, le réseau électrique, sur l'homme aussi bien entendu, la biodiversité aussi, on en parle peu, mais c'est aussi un gros sujet de penser aussi à cette partie-là. Faut toujours y penser beaucoup plus. Sur le comment on fait pour s'adapter en fait à tout ça, quand on a ce genre de pic, quelles sont les premières actions que tu parlais de plein de sujets, l'urbanisme et d'autres, pour toi les principales actions qui devraient être effectuées en termes d'urgence, parce que comme tu dis ça peut arriver du jour au lendemain même malgré la probabilité, qu'est-ce qui devrait être mis en place rapidement?
Alors, déjà, avant de répondre à ça, faut avoir en tête deux choses. La première, c'est qu'on ne pourra pas s'adapter à tout. Donc, c'est pour ça qu'on reboucle sur un premier point qui est, si les gens croyaient plus au changement climatique, maintenant on est en train de le vivre. C'est pas nos enfants, c'est pas les gens au Bangladesh, c'est nous. Ici et maintenant, c'est notre mode de vie. Là, ça y est, il est menacé. Il est déjà menacé. La bonne nouvelle, malgré tout, c'est que au niveau actuel du changement climatique, on a franchement toutes les solutions techniques. Donc, je vais t'en donner plein, mais elles existent. Donc ça, c'est quand même rassurant. Mais c'est faut pas que ça soit une excuse pour le premier point, tu vois. D'où la double urgence de réduire nos consommations de tout, simplifier nos vies pour se concentrer. En gros, c'est une dichotomie c'est un dialogue qu'on doit avoir entre qu'est-ce qu'on souhaite protéger et ce à quoi on est prêt à renoncer. Et si on se concentre sur si on a des choses à protéger, par exemple, comme tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé des hôpitaux et des systèmes de clim. Par exemple, il y a des systèmes de clim par géothermie qui pourrait être hyper intéressant pour les hôpitaux, parce que c'est des gros consommateurs de froid et de chaud, et donc on pourrait installer de la géothermie, y compris dans des endroits comme à Paris où c'est quand même pas mal de gruyère, mais ça pourrait se faire, et c'est un chantier, ça peut durer juste un an. Donc un an, c'est ultra rapide par rapport au changement que ça apporte, donc c'est baisse drastique des émissions de gaz à effet de serre, et vachement grande résilience parce que ça dépend moins du réseau électrique que d'autres systèmes de clim. Ça, c'est des trucs qu'on pourrait faire. Toi, je te parle système de santé, niveau pouvoir public. Un autre truc que les pouvoirs publics pourraient faire, et je me concentre à Paris, puisque je suis élu là-bas, on n'aurait pas la même discussion si c'était ailleurs. Notamment, on a un tout petit sujet sur l'agriculture en France. Mais à Paris, il faut débitumiser. Je rentre même pas dans la discussion de est-ce qu'il faudrait moins de voitures, parce que les voitures, en fait, ça apporte de la chaleur. En plus, notamment l'été, c'est des problèmes de qualité de l'air, etc. Mais même si on se disait on garde le même nombre de véhicules, en fait, il faudrait débitumiser les places de parking. Ça, c'est un truc, ça coûte pas grand-chose de mettre des sortes de... C'est même pas de la pelouse exactement, mais en fait, c'est... Il y a plein de solutions techniques qui existent pour à la fois que l'eau de pluie puisse s'infiltrer mieux et en même temps ça reste une place de parking si on veut que ce soit le cas. On va avoir un énorme sujet à Paris sur les toits. Donc, les toits de Paris, c'est les toits en zinc, c'est les aristochats, c'est c'est un patrimoine culturel d'une certaine manière, il y a un attachement émotionnel à ça. Le problème, c'est que si on touche pas les toits, dans quelques années, en fait, il y a une partie de Paris sous les toits qui va devenir insalubre. Parce qu'il va y faire trop chaud une partie de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est là où, tu vois, on va sortir du, on va entrer par le débat technique. Je vais te parler des différentes solutions qui existent. Mais en fait, après, ça devient un débat politique, organisationnel, financier. Donc, la première solution, c'est on fait rien. Si on fait rien, techniquement, parce que on veut, on hiérarchise d'abord la question du patrimoine et de la conservation du patrimoine avant toute chose. Bon, bah, les propriétaires de ces biens-là, il faut qu'ils sachent que la valeur de leurs biens, elle va diminuer. Voire à un moment, on leur interdira de louer parce que ce sera insalubre. Est-ce qu'on veut ça? Je sais pas. Autre solution, on peut repeindre les toits en blanc. Il y a plein de solutions de peinture, qui d'ailleurs, ça marche très bien sur les surfaces planes, supermarchés, hôpitaux. Tu mets ce truc-là, parce que en fait, quand tu as une surface qui est plus claire, elle emmagasine moins la chaleur. C'est pour ça que les rues du sud, du pourtour méditerranéen, elles sont, tous les bâtiments, tout est plus clair. C'est pas juste par rapport aux matériaux du coin, en fait, c'est parce qu'ils savent, ils ont bien compris que ça emmagasinait moins la chaleur. Tu pourrais faire ça. Le problème, c'est que ça change vachement l'aspect visuel, et puis tous les 10 ans, il faut le refaire. Autre solution, tu pourrais changer les matériaux qui sont utilisés. Donc, t'enlèves le zinc et puis tu mets des trucs qu'on va retrouver à Marseille ou à Toulouse. Bon, alors là, ça change vachement l'aspect, ça change le poids. Est-ce que ça passe? Je sais pas, mais bon, c'est un choix, c'est possible. Et puis pendant que tu fais ça, tu refais l'isolation. Et donc, tu gagnes et en confort l'été et en facture énergétique l'hiver. Et ça, c'est un enjeu quand même qui va augmenter. Autre solution, tu fais comme à Venise, tu installes des terrasses légères sur ces toits. Et là, moi, c'est la solution qui est la plus séduisante pour moi, non pas en tant qu'élu, mais en tant que Parisien, parce que je me dis, waouh, t'imagines, d'un seul coup, ça devient, c'est les toits deviennent un nouvel espace de vie, de jeu, de réception, tu peux y mettre des petits potagers. Ça peut être des espaces de socialisation. Il peut se passer quelque chose. Voilà, ça c'est des solutions techniques.
C'est quoi du coup ces terrasses, juste pour que tu
comprennes. Ben, en fait, c'est-à-dire que tu conserves la surface en zinc, mais tu viens mettre par-dessus une terrasse légère en bois. Et en fait, cette toiture-là, elle fait un isolant supplémentaire, c'est-à-dire que ton toit en zinc, il n'est pas directement frappé par les rayons du soleil. En Italie, ils ont ça. Notamment à Venise. Et personne se dit que Venise, les toits de Venise sont moches. C'est pas les mêmes toits. Mais on en revient sinon l'autre alternative, c'est on fait rien. Parce que les solutions, tu viendrais isoler par l'intérieur, elles sont pas satisfaisantes sur le long terme. Voilà, là je parle des toits, mais en fait, tu vois, en fait, il faudrait prendre absolument tous les pans de notre vie et se dire qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, et dans ce qu'on veut garder, c'est quoi les solutions techniques, mais quel choix on doit faire, des choix d'adulte, de renoncer à quelque chose pour mieux préserver quelque chose d'autre. Et tu vois bien que si je parle juste des toits pour bien illustrer, bah derrière il y a une question de ok, admettons que cette histoire de terrasse vénitienne, on se dise on a eu un débat démocratique, c'est ça qu'on veut. Bah derrière il y a une question de savoir-faire, il y a une question de main-d'œuvre qualifiée, pas juste en conception mais en réalisation. Ensuite il va y avoir une question de matériaux. Est-ce qu'on a les matériaux pour faire tout ça? Ça va entrer en concurrence avec quoi? Tout ce bois-là, par exemple. Bon, bah voilà, on remet une couche sur quel choix on veut faire, ce à quoi on est prêt à renoncer. Est-ce que, je sais pas, moi, admettons que ça entre en concurrence avec le bois pour la construction d'immeubles, Est-ce qu'on se dit, bah, en fait, bon, Paris est suffisamment dense, on va arrêter de construire, même si c'est des constructions en bois.
Sur tous ces sujets-là, quand tu parles, t'as parlé de l'urbanisme, t'as parlé, bien entendu, des toits, de l'adaptation aux chaleurs extrêmes, également au froid, ce qui peut aider aussi par rapport au froid, l'hiver. À quel point t'es optimiste sur cette partie-là? Sur ces parties-là, sur la faisabilité, tu dis qu'en effet, c'est des gros sujets qu'il faut que les politiques prennent en main, que les pouvoirs publics prennent en main. Quand tu vois, toi, de l'intérieur, la différence entre ce que tu peux voir en entreprise, ce que tu peux voir de l'intérieur depuis 2 ans maintenant, à quel point tu te dis que des sujets comme ça aussi, qui paraissent beaucoup plus complexes que ce que tu disais juste avant sur la climatisation en géothermie, qui, à mon avis, ne seront pas non plus si faciles à mettre en place, à quel point c'est envisageable ce genre de choses?
Politiquement, tu veux dire? Ouais, là, la question est plus sociétalement.
Ouais, tout à fait.
Alors déjà, on est bien clair sur le fait qu'on parle d'une révolution et que c'est une révolution du type haussmannienne. Tu vois, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'aspect de la ville en 10, 20, 30 ans, il change radicalement. Je sais par ailleurs, enfin moi tu vois, on m'a martelé pendant toutes mes études quand je travaillais sur quand j'étudiais ces questions-là, on m'a toujours dit l'humain est une espèce adaptative. On a une capacité à s'adapter qui est monumentale. Et c'est vrai. Et en fait là, ça y est, on est déjà quand même pas mal dans le marécage. C'est un peu comme ces histoires de 50 degrés, à quel point c'est probable ou pas. En fait, je me sors des questions de probabilité. Et je sais qu'il y a énormément de prophéties autoréalisatrices, en fait, dans ce truc-là. C'est-à-dire que si je te dis, bah, ouais, non, en fait, je pense qu'on va pas y arriver, bah, en fait, on n'y arrivera pas. Je sais, de manière réaliste aussi, que c'est pas parce que je me dis qu'on va y arriver que ça va arriver. Mais, en fait, c'est la seule manière de se donner des chances que ça arrive. Et qu'on s'en sorte. Donc. Si je te donne le fond de ma pensée, je pense que c'est faisable. Sinon, j'aurais une stratégie de protection personnelle qui serait différente et qui consisterait à faire comme pas mal de gens à fuir la ville. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. C'est sans doute lié à mon éducation, c'est sans doute lié au fait que je sois né à Paris, que j'ai un attachement viscéral à cette ville. C'est lié à ma combativité. Mais je sais aussi, de manière réaliste, que ça va pas se faire d'un claquement de doigts et que ça sera pas une route linéaire et que ça sera sans doute, il y aura de la violence d'une manière ou d'une autre, il y aura de la violence, pas forcément de la violence physique directe, mais en fait, ce que je vois aussi, c'est que tu vois, en commençant à parler de ces sujets-là, j'ai une audience qui a énormément grandi. Et ce que ça dit, c'est que les gens, enfin, faut bien avoir en tête que une des raisons, en fait, c'est aussi stratégique, hein, la raison pour laquelle je me suis attaqué aux vagues de chaleur et pas à plein d'autres sujets environnementaux, c'est que c'est un sujet qui est sensible. Les perturbateurs endocriniens, les microplastiques, t'en as une compréhension intellectuelle. Les vagues de chaleur, tout le monde en a vécu une, au moins une, et sait ce que c'est en termes de souffrance, etc. Donc ça permet de créer un lien et d'amorcer un dialogue qu'il n'y avait pas auparavant. Donc je pense qu'il y a une, je pense qu'il faut pas regarder dans le rétroviseur pour se dire, bah attends, mais regarde la vitesse à laquelle on a avancé ces 20 dernières années. Si on projette ça, ça marche pas. Et un autre truc qui me rassure, je suis désolé de dire ça, mais en fait, bah quand il y a eu le Covid, on a été capable de redonner du pouvoir aux politiques et du jour au lendemain. De faire des trucs. Alors, c'était peut-être pas les bonnes choses, c'était peut-être discutable, etc., etc. Peut-être que ça a aussi participé à casser une confiance dans le pouvoir politique. J'en sais rien. Mais le fait est que face à un très grand périple, je crois qu'on est capable de d'arrêter beaucoup de choses et de faire beaucoup de choses. Et pareil, hein, ça fait 10-15 ans que je suis dans ces sujets. Ça fait 10-15 ans que, alors je suis pas le seul, hein, mais que je me dis, en fait, il nous faut un système en mode économie de guerre, dans lequel les règles économiques sont mises de côté en partie sur certains champs, parce qu'en fait, il y a un périple qui justifie que je te dis un truc comme ça, mais que par exemple, du jour au lendemain, on dise bah voilà, on assure les salaires de tout le monde, mais tout le monde doit passer une demi-journée par semaine à aider à végétaliser la ville et à l'entretenir. Bon, c'est pas exactement les règles économiques actuelles. Je te dis n'importe quoi, ouais, hein. Mais c'est en fait, je pense qu'on va être obligé de passer par ça, sinon c'est un effondrement. Et c'est clair que c'est pas la voie qu'on prend, mais moi je constate que il y a pas mal de gens qui ont envie que les choses bougent, donc en tout cas voilà, j'essaye.
Je vais terminer sur ces belles paroles d'optimisme, hein, en soi, et il faut l'être, c'est l'objectif aussi du podcast, de parler des enjeux, mais aussi de comprendre que on est il y a encore des choses à faire, beaucoup de choses à faire, beaucoup trop, mais c'est important de voir qu'on est capable aussi d'aller tous agir ensemble, et que tout est bien entendu envisageable pour limiter au maximum les enjeux du dérèglement climatique et les impacts surtout.
Ouais, et puis tu fais un pas en avant déjà quand tu poses bien le problème.
Exactement.
Tu vois, et moi j'en suis qu'au tout début. La fiction, elle est en cours d'écriture. Il y a une mission d'information et d'évaluation qui est un mécanisme pour faire de la politique sur ces sujets-là à partir de la rentrée. Et je vois que ça crée un énorme engouement dans la classe politique et médiatique. Parce qu'en fait, l'instinct de survie de tout le monde, il est en train de s'activer. Et voilà, je pense que la première chose, c'est de mieux poser le problème. Et c'est ce que, tu vois, c'est ce que j'essayais de faire, en fait, en parlant des toits parisiens.
Sur les trois questions de fin, Alexandre, que j'espère que tu as préparé. Non, sur les trois questions de fin, d'abord, est-ce que tu as un contenu à nous partager que tu recommanderais, du coup, aux auditeurs et aux auditrices?
Alors moi, il y a un livre qui m'a beaucoup touché dans les deux dernières années, qui s'appelle « Manière d'être vivant » de Baptiste Morisot, pour deux raisons, à la fois pour l'introduction qui fait qu'il y a un texte que j'ai relu je sais pas combien de fois, où notamment il a cette phrase qui m'a beaucoup accompagné, qui a été une sorte d'illumination pour moi. Il explique que la crise écologique, c'est une crise de sensibilité. Et voilà, il est trop tard pour qu'on détaille, mais et puis par ailleurs, c'est des textes où il suit la piste d'animaux, et je trouve ça passionnant, avec un mélange de rationnel et de sensibilité. Et je pense que c'est vers ça que on doit tendre en tant que société. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire en tant qu'individu, même en étant plongé dans le monde politique. Donc ce d'abord ce livre.
Est-ce que t'as voilà, si t'as un autre contenu, n'hésite pas.
Et puis voilà, parce que ouais. Bah deuxième, je vous invite à écouter Chima Funk. Ça s'écrit CIMAFUNK. Je vous ai dit que la musique ça m'accompagnait. Bah voilà, je laisse ce groupe là afro-cubain, enfin cubain, qui mélange funk et musique afro-cubaine, qui est absolument incroyable. C'est une pépite d'énergie. Moi, ça me ressource.
Moi, je mettrai les liens. N'hésitez pas du coup à enchaîner le podcast par une petite musique comme ça. Ça fait toujours du bien pour en plus se remettre dans de bonnes vibes, en terminant aussi par des bonnes vibes dans la fin de l'épisode. Sur est-ce que tu as une action, Alexandre, pour agir dès demain?
Ouais, un truc qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement sur la partie réduire mon empreinte négative. Mon empreinte carbone sur le monde, c'était de plus me concentrer sur les voyages que j'allais arrêter de faire, mais de me concentrer sur ce que je pouvais faire de nouveau. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est organisez-vous des vacances kiffantes, sans que l'objectif ce soit il faut plus qu'il y ait d'avion, etc. C'est genre ok, ça c'est hors du champ, c'est qu'est-ce que je peux faire en prenant le train pour aller jusque dans les montagnes françaises, quelle rivière je peux descendre en kayak, bivouac, quel tour à vélo je peux faire. Moi, c'est des trucs, en fait, ça m'a donné de l'énergie. Voilà, en fait, ça fait le lien avec Chima Funk et la musique, et pourquoi j'en parlais, c'est que ces sujets là si tu fais que ça dans ta vie, c'est hyper déprimant.
Et cette angoisse de « est-ce qu'on va y arriver ?» Bah en fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, à la fin, on meurt tous. Donc ce qui compte, c'est le chemin. Donc moi, s'il n'y a pas de musique et du vélo et de la rando et dans des lieux sympas, bon, ok, là, ça vaut pas le coup d'être vécu. Et puis si on rate, bah on rate. J'ai pas de contrôle en fait là-dessus. Voilà. Donc organisez-vous des vacances kiffantes avec des gens que vous aimez, en écoutant du Tim Maffin et en lisant Baptiste Morisot, Manière d'être vivant.
Et enfin, est-ce que t'as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast?
J'en avais plein et je pourrais t'en donner d'autres. J'ai la chance de côtoyer au sein de Carbone 4 énormément de femmes extrêmement talentueuses. Elles sont combatives, elles ont une énergie incroyable. Et celle que je souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est Lou Velgreen, qui avec qui je travaille, qui est une amie et qui par ailleurs est notamment coprésidente de Data for Good. Et c'est quelqu'un qui a la patate et j'ai l'impression que c'est le genre de personne, c'est clairement le genre de personne que j'aimerais voir au pouvoir, que ce soit des pouvoirs économiques ou aux politiques, parce que je me dis une jeune femme comme ça, avec elle, on peut tout traverser, quoi. Ça va tanguer, mais c'est des gens comme ça que moi je souhaite mettre en avant. Chez Carbone 4, il y en a plein d'autres. Hein. C'est Hélène Chauviré, Juliette Deck, Clémence Lacharme. Je pourrais toutes les Alexia Soyeux. Je pourrais toutes les citer, mais voilà.
Nickel.
Et j'ai fait exprès de citer beaucoup de femmes parce qu'en général on a plus de difficultés à en trouver. Donc c'est aussi, je pense qu'il faut pas avoir peur de rééquilibrer dans l'autre sens de temps en temps.
On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Merci en tout cas pour cette recommandation. Si toi on souhaite te retrouver, si on souhaite retrouver tes travaux, que ce soit au sein de Carbone 4 ou bien entendu au sein de tes actions en tant que conseiller de Paris et sur cette fiction notamment aussi. Paris 50 degrés, donc pas 2050. Je me rappellerai celle-là, t'inquiète pas, là, je m'en tromperai plus.
Ouais, mais tu vois, le fait d'avoir explicité comme ça, ça rend les choses plus claires, je pense.
Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Alexandre?
Eh ben, je suis très réactif sur et je publie beaucoup sur LinkedIn et un peu moins sur Twitter parce que c'est un format qui est plus adverse, mais mes messages privés sont ouverts. Un petit peu sur Instagram, mais j'y mets plus, j'y mets moins de politique et j'y mets plus de kiff, donc de la musique, de la boxe. C'est plus une partie de ma vie privée, enfin privée. Elle est pas privée puisque je la mets sur Instagram, mais voilà, c'est très principalement sur LinkedIn et Twitter. Et n'hésitez pas à me contacter en message privé. J'essaye au maximum de d'y répondre, non pas pour plutôt pour des collaborations et de moins en moins malheureusement pour des interactions personnelles, pour discuter parcours, carrière, etc. Malheureusement j'ai trop de sollicitations dans ce genre là mais voilà, à partir de la rentrée je vais avoir beaucoup de choses à faire autour de Paris à 50 degrés et toutes les aides sont les bienvenues, quel que soit votre domaine d'expertise ou si vous avez aucune expertise mais de la bonne volonté. Il y a des choses à faire et je réfléchis beaucoup à comment organiser des collectifs parce que je reçois de plus en plus de demandes, d'envie d'aide et ça me fait du bien. C'est non négligeable. Ça aussi, c'est un truc, que ce soit par rapport à moi ou par rapport à d'autres personnes. En fait, à partir du moment où tu es exposé médiatiquement et sur les réseaux sociaux, tu te prends des trucs mais genre d'une violence incroyable. Et donc, le moindre message de soutien, mais vous pouvez pas savoir comme ça donne de l'énergie, mais pour 10 messages de merde, quoi. Donc, faites-le avec les gens, tous les gens que vous appréciez. Hésitez pas, quoi. Je l'avais jamais fait avant. J'avais peur que ça fasse, tu vois, fanboy ou que les personnes elles prennent le melon et tout. Mais en fait, je vois, moi, j'ai pas du tout l'impression de prendre le melon. J'ai l'impression qu'en fait, juste ça me booste par rapport à la violence. Donc voilà. C'est une petite action très simple de soutien, des gens qui font des gens cool, que vous aimez bien, bah ouais, dites-le en fait.
Parfait. Bah, je mettrai bien sûr tous les liens. Et n'hésitez pas à envoyer un message à Alexandre à la fin de l'épisode si vous avez apprécié. Non, même si bien entendu, je mettrai.
Ou des critiques constructives. Ou des critiques constructives, elles sont vachement appréciées aussi. C'est vraiment une question de ton.
Exactement. En tout cas, merci beaucoup Alexandre, merci pour ton temps. Et
il y a de grandes chances
qu'on se reparle dans quelques années sur l'autre sujet, Carbone 4, sur la formation, etc. On n'a pas pu l'aborder aujourd'hui, mais on se reverra, il y a pas de doute là-dessus. On aura une version 2. Merci Alexandre.
Bah, avec grand plaisir, hein, parce que les enjeux sont immenses, quelle que soit la fonction publique, le privé, l'éducation supérieure, etc. Il y a de quoi faire. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Merci Antoine.
Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.